This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Cette semaine en flashback, nous recevons Vincent-Paul Boncourt pour les 20 ans de Carlotta Film. En 1998, Vincent-Paul Boncourt cofondait Carlotta Film en hommage à Carlotta Valdés, l'héroïne fantasmée du vertigo d'Hitchcock, le film absolu de l'histoire du cinéma selon lui. La société a depuis tracé sa route, sortie salle, édition prestige DVD Blu-ray, publication de beaux livres. Carlotta est devenue, à l'heure du numérique, un acteur incontournable du cinéma de patrimoine, dont nous évoquons très régulièrement dans Flashback la riche actualité. Vincent-Paul Boncourt est notre invité pour célébrer comme il se doit les 20 ans de Carlotta.
Vincent-Paul Boncourt, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors il y a 20 ans, tout juste, vous sortiez La mort aux trousses, votre première édition. Quel souvenir gardez-vous de cette première sortie, Carlotta?
Donc ben, on garde un souvenir très très fort et très vivace de cette sortie il y a 20 ans, puisque Carlotta est vraiment partie de là avec cette première sortie, et le succès de cette sortie dépendait vraiment de la suite, de pouvoir racheter d'autres films, les ressortir, les faire exister de nouveau. Et La mort aux trousses a été un beau succès à tout niveau, puisqu'on l'avait sorti en fait comme un peu notre approche depuis le début, de ressortir des grands classiques de l'histoire du cinéma plus ou moins connus, tels des films nouveaux. C'est-à-dire, on sort dans le marché, dans l'actualité du cinéma, avec une nouvelle promotion, communication. À l'époque, j'ai retrouvé le numéro spécial qui avait été fait des Cahiers du cinéma, un supplément. On avait été démarché pour réaliser quelque chose de plus qu'un simple article de 2 pages, et on avait fait un numéro spécial de 16 pages qui revenait sur le film, des partenaires médias, etc., etc. Et le film a existé, puisque le vrai challenge, quand on nous le disait, mais bon, déjà, il y a 20 ans, on nous disait, mais vous êtes fous, tu es fou de faire créer une société de distribution spécialisée dans le patrimoine, ça intéresse personne, c'est que des vieux films, que parisiens. Et puis, La mort aux trousses, tout le monde l'a déjà vu. C'est vrai qu'on est sur un des films iconiques, mais en même temps, qu'il n'y avait plus de distributeur, donc qui n'était plus disponible pour être montré sur grand écran au cinéma. Ce qui arrive régulièrement avec des films où les droits sont expirés, où il n'y a plus de distributeur qui prend la relève. Et le film était un peu, pas banalisé, mais beaucoup vu à la télévision, passait tous les ans sur France 3, FR 3 à l'époque, sortait en VHS, etc. Mais en même temps, je me disais, moi déjà en tant que spectateur et jeune cinéphile, que j'avais envie de revoir ou voir La mort aux trousses sur grand écran. C'est-à-dire dans son format d'origine, en version restaurée, et de vivre l'expérience salle, même si je l'avais grandi avec ce film en le voyant constamment, comme je disais, à la télévision, mais en version française, par exemple. Donc toutes ces données-là nous ont fait croire qu'il y avait une envie, un public, un désir à créer, à développer, pour voir ou revoir La mort aux trousses au cinéma.
Il y a des sorties DVD qui semblent avoir joué un rôle important dans la redécouverte de certains auteurs, ou en tout cas dans le fait de les rendre accessibles. Par exemple, quand vous avez sorti les 2 coffrets de Douglas Sirk, ça a été vraiment une étape dans la redécouverte de ce cinéaste. Est-ce que comment prend-on un tel pari?
Alors, notre approche est toujours, il y a le film en tant que tel, l'œuvre, mais d'être aussi le plus possible, ça je pense que c'est l'héritage et la cinéphilie française qui est sur l'auteur et le cinéaste, plus que les acteurs d'ailleurs, et de se dire qu'on va faire un travail sur des grands cinéastes de l'histoire du cinéma en ressortant l'essentiel de leurs films, beaucoup de leurs films, voire l'intégralité. Et c'est vrai que ça a été aussi dès le départ notre plus-value et notre apport sur le travail de distribution sur la cinéphilie, c'est de se plonger tout le temps, d'année en année, sur la réédition, pas d'un film de Sirk, de Buñuel, de Kurosawa, mais 7, 10, 15, et aussi des œuvres qu'on aime bien travailler sur la durée, même si on travaille aussi sur des cinéastes qui sont toujours vivants, voire en activité, mais un certain nombre ne sont plus de ce monde, comme Douglas Sirk par exemple, ou Fassbinder. Et c'est vrai que ces deux auteurs-là, ce qui nous intéresse, c'est de les suivre comme si c'était des auteurs qui réalisaient un film nouveau ou une nouvelle actualité liée à des nouvelles acquisitions, à une nouvelle restauration. Et si je prends Fassbinder, ça fait 15 ans à peu près qu'on travaille l'œuvre de Fassbinder en sortant pas tous les ans, mais tous les ans, tous les deux ans, trois ans, un nouveau film de Fassbinder, un film inédit qu'on n'avait pas vu, un film, un téléfilm qui n'était jamais sorti en France, des séries télé. Donc on est aussi sur quelque chose de complètement vivant et d'actuel, comme l'actualité de cinéastes qui seraient toujours en activité. Pour venir à Douglas Sirk, c'est vrai que ça nous a paru une évidence et nous correspondre à Carlotta, d'être sur un travail spécifique sur ce cinéaste-là, et d'un seul coup le faire redécouvrir via deux coffrets qu'on a réalisés, même trois, et qui réunissaient ces grandes œuvres, ces grands mélodrames, qui se répondent forcément de l'un à l'autre, et de réaliser aussi et surtout un travail éditorial qui passait par les suppléments, l'édition en tant que telle, le packaging, etc.
Comment ça se passe avec les ayants droit? C'est une question qu'on se pose parfois. Vous éditez en effet tout type finalement de cinématographie, notamment des grands classiques hollywoodiens. Comment ça se passe? Vous allez voir un studio, vous leur demandez les droits, vous allez voir les héritiers des cinéastes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment le travail se fait en amont?
C'est très variable. C'est-à-dire qu'on a en 20 ans, évidemment, on a développé tout ce travail-là sur le cinéma. Il y a aussi des ayants droit qui viennent nous voir, qui nous proposent, qui ont des droits, qui nous proposent des sorties. Donc il y a à la fois des gens qui viennent nous voir, nous qui sommes en relation avec des vendeurs internationaux, comme tout film nouveau en fait, avec des vendeurs qui vendent des films qui peuvent acquérir des nouvelles acquisitions, ou des sociétés historiques comme des studios de cinéma, des majors américaines ou des majors japonaises comme la Shochiku, qui est l'équivalent d'une société comme Warner aux États-Unis, et avec qui on a aussi créé un travail de fidélité, et on achète des films auprès d'eux pour la France, peut-être d'autres territoires, mais essentiellement français, selon, voilà, soit tout droit, cinéma, DVD ou autre. Et d'un seul coup, on devient le distributeur, l'ayant droit France, et là démarre le travail de réédition et de sortie des films. Donc c'est un peu les deux principaux schémas. Et puis il y a aussi des films qu'on recherche, nous, et il y a un peu le travail de détective de rechercher un film qui a disparu complètement des radars et pour lequel on va essayer de retrouver l'ayant droit, qui est pas forcément, où le film appartient pas forcément, vous voyez, à un catalogue représenté par des vendeurs. Et on est aussi en relation avec des cinéastes ou des producteurs qui ont fait quelques films et ils ont les droits, mais voilà, ça se retrouve pas ailleurs. Donc voilà, ce travail est vraiment transversal.
Alors, Hitchcock, bien sûr, vous avez sorti cet été une large rétrospective autour de l'œuvre d'Ozu qui a été un franc succès. Vous proposez actuellement une rétrospective Bergman en salle. Fassbinder était, dont vous avez, je crois, une bonne partie des droits, a été à l'honneur aussi au printemps. On a l'impression que les grands auteurs restent insubmersibles, mais c'est dans le bon sens du terme. Mais existe-t-il pour autant une nouvelle cinéphilie et de nouveaux cinéastes aujourd'hui consacrés ou appréciés?
C'est-à-dire de nouveaux auteurs.
Est-ce que la cinéphilie peut sortir de ces grands auteurs, évidemment très célèbres, qui marchent toujours autant?
Alors, il y a deux choses. D'une part, c'est vrai que ça peut nous paraître, nous, une évidence, étant une personne vivant, passionné de cinéma, on a l'impression de, voilà, que Kurosawa, Buñuel, Fassbinder, Bergman, tout le monde les a vus, on les connaît par cœur. Faut pas oublier que des générations qui nous suivent, ou même des gens de notre génération, on n'ont pas loin d'avoir vu tous les films, et qu'il faut les remontrer constamment. Et c'est vrai que je pense que tous les 10 ans, il faut ressortir et remettre en avant des grands noms de l'histoire du cinéma pour pas qu'ils commencent à être oubliés et disparaître. Parce que c'est vrai que ce qui nous paraît évident n'est pas forcément aux yeux de tout le monde, y compris d'un public curieux, cinéphile et qui va au cinéma. Donc Bergman, par exemple, actuellement, c'est aussi une redécouverte pour plein de gens, pour plein de spectateurs, y compris nous cinéphiles, parce qu'on n'a pas tout vu, tout Bergman, et on redécouvre des films plus rares. L'idée étant toujours d'être dans un équilibre aussi, de faire découvrir les films les plus connus, mais pas forcément vu, de l'œuvre d'un grand cinéaste comme Bergman, mais aussi des films plus rares, plus méconnus, et ce qui crée une vraie dynamique pour passer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que, par exemple, au Zoo, où je suis beaucoup allé dans les salles cet été, à Paris, en province, on voyait que les gens allaient voir 1, 2, 3, 4 au Zoo, et qu'il y avait une vraie forme de dynamique. En plus, chez au Zoo, il y avait ce sentiment d'être bien dans ce monde, dans cette famille, et de se dire, on veut prolonger et piocher et aller voir plusieurs films, ce qui n'aurait pas été forcément le cas, vous voyez, avec la sortie seule d'un film d'Ozu, forcément. Donc il y a cette immersion-là qui me paraît importante, et donc ça, il ne faut jamais perdre de vue d'être constamment sur les grands films, les grands noms, et aussi, et c'est notre travail qu'on fait à l'année, c'est faire aussi découvrir des cinéastes qui ne sont pas forcément aussi connus, reconnus, pas dans les mêmes radars, et d'être constamment dans la découverte. Je pense à Lino Broca, par exemple, grand cinéaste philippin, qui est dans la pleine filiation de Fassbinder par rapport au mélodrame. C'est un cinéaste qui était un peu connu dans les années 70-80, qui avait percé grâce au Festival de Cannes notamment, mais qui avait complètement disparu, plus de droits, plus de matériel, plus de copies, et quand on ne plus les films, ils disparaissent de la conscience, de l'esprit de la cinéphilie, la conscience collective. Et donc c'est vrai qu'on est constamment aussi sur plein de pépites rares et invisibles, et des auteurs et des films qu'on a envie de faire découvrir et partager.
Le cinéma français n'est pas très présent chez vous, vous considérez qu'il est bien couvert et que ce n'est pas le plus urgent à traiter en masse?
Alors je n'irai pas jusqu'à ce point-là, parce qu'on s'intéresse au cinéma français. Quand on fait Buñuel, évidemment cinéaste espagnol, mais on a travaillé sa carrière française dans les 70, on a sorti Plein Soleil, on fait un travail sur Jean-Paul Rapneau à venir avec la sortie de Cyrano, et puis Le Sauvage, Tout Feu, Tout Flamme. Charles Maton, vous en parlerez bientôt, mais là ça va être une vraie découverte, et sur le cinéma français, et plus que le cinéma évidemment. Mais c'est vrai que c'est la particularité d'être distributeur de films de patrimoine en France, où vous avez déjà beaucoup de sociétés ayant droit, productrice de l'histoire du cinéma. Je vais citer Gaumont, Pathé, TF1 et d'autres, qui représentent des catalogues et qui, généralement, font souvent eux-mêmes. Par exemple, en DVD, en Blu-ray, même s'il peut y avoir des collaborations, des coéditions, mais de majeure générale, ils sont eux-mêmes éditeurs, ils diffusent. Certains sont aussi distributeurs ou travaillent avec des distributeurs comme nous ou d'autres indépendants, mais c'est vrai qu'on travaille, on collabore par exemple avec Studio Canal pour sortir en salle, mais ça sera eux-mêmes qui vont sortir les films dont ils ont les droits en DVD Blu-ray. Donc on a, entre guillemets, paradoxe ou pas, mais peut-être moins accès au patrimoine français pour acquérir les droits que, par exemple, un éditeur-distributeur américain, dont ces grandes sociétés françaises que je viens de citer ne sont pas implantées aux États-Unis et ont besoin d'un relais naturel et de professionnels pour diffuser et montrer les œuvres de leur catalogue qu'ils ont restauré, etc. Donc c'est pas par choix qu'on va pas sur le cinéma français, et encore on y va de plus en plus, mais aussi parce que voilà, il y a peut-être moins de choses à faire, ou déjà beaucoup de choses qui sont faites par d'autres.
Alors en effet, parmi vos choix éditoriaux, il y a le cinéma américain, vous êtes bien implanté, et particulièrement certains réalisateurs phares du Nouvel Hollywood. Je pense évidemment à Brian De Palma, à Michael Cimino, vous avez consacré des magnifiques éditions à Voyage au bout de l'enfer ou La Porte du Paradis, et aussi à Jerry Schatzberg et Peter Bogdanovich, qui fait l'actualité actuellement. Cette époque-là du Nouvel Hollywood, c'est une époque, dans votre cinéphilie, je suppose, importante.
Oui, c'est-à-dire que j'ai grandi avec toutes les, enfin, avec l'âge d'or du cinéma hollywoodien, parce que c'est vrai qu'il y a 25 ans, la cinéphilie était plus sur l'âge d'or d'Hollywood, des grands réalisateurs comme Ford, Walsh, Hitchcock pour moi restant toujours aujourd'hui la première porte d'entrée par rapport à la cinéphilie. Mais parallèlement, grandissant dans les années 80 essentiellement, 70-80, évidemment je voyais en tant que spectateur à 13-14 ans les nouveaux films de Coppola, Scorsese, De Palma, etc. etc. Donc ça faisait partie, ils faisaient vraiment, hein, même si certains en font encore partie, mais peut-être pas au encore même niveau, c'était partie de l'actualité du cinéma, on allait voir et on découvrait les films sortis quelques années auparavant, comme Pulsion, Blood, mais qu'on n'avait pas vu en salle. Donc c'est aussi ce qu'il y a, donc le Nouvel Hollywood, qui à l'époque s'appelait pas forcément encore le Nouvel Hollywood, c'est apparu par la suite, mais on va dire le cinéma de cette jeune génération des années 70-80. Je baignais dedans, et j'ai grandi avec, et quand on a créé Carlotta, outre de ressortir des grands classiques comme La Mort aux Trousses en version restaurée, ce qui a été aussi notre ligne éditoriale et notre approche assez originale par rapport au marché à l'époque où il y avait déjà évidemment beaucoup de sociétés de distribution de films, mais ces distributeurs-là et aussi ces exploitants qui font un travail sur le patrimoine à l'année trouvaient que ressortir un film des années 70-80, c'était trop récent. Alors, faut se mettre 20 ans en arrière. Aujourd'hui, ça sera les années 2000, par exemple. Mais ça paraissait trop récent par rapport à la public, et c'était pas la cinéphilie. Elle a évolué, mais en même temps, c'était ma génération. Et on s'est dit, bah oui, mais je pense que moi-même et ma génération de cinéphiles a envie de voir, comme il l'a jamais vu sur grand écran, ces films des années 70. De cinéastes comme Coppola, Scorsese, etc. Et c'est comme ça qu'on a ressorti les premiers De Palma, Pulsion, Blood, Obsession, qu'on a ressorti Rencontre du troisième type, et que je pense que la plupart des jeunes cinéphiles de ma génération le découvraient pour la première fois au cinéma, dans le format réel, en scope pour beaucoup, pas tronqué en 4 tiers, pas en VF. Faut pas oublier qu'il y a 20 ans, le DVD apparaissait à peine. C'est-à-dire qu'on les filme, on pouvait les voir à la télévision, au cinéma et en VHS. Et en VHS, vous les voyez essentiellement en VF et dans un format panscanné. Donc c'était pas Love non plus.
Vous faites très souvent des beaux coffrets. On parlait du Nouvel Hollywood, des coffrets type La Porte du Paradis, etc., qui sont formidables. Est-ce qu'il y a un public de collectionneurs de coffrets? Ça fonctionne comment?
Je pense que déjà la particularité de la France, c'est d'être dans un rapport très très collector et très 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 proche et lié à l'objet. C'est quelque chose qu'on développe depuis le début. C'est dès qu'on s'est lancé quelques années après la création de Carlotta, où on est d'abord distributeur de films en salle, on a prolongé notre travail en édition vidéo, DVD, puis Blu-ray, et d'être tout de suite sur le bel objet. À une époque où il n'y avait pas autant de cette notion de collector qui aujourd'hui est de plus en plus développée à un très fort niveau, mais en tout cas en se disant on a évidemment il y a le film mais aussi envie de posséder la belle édition qu'on a sorti de Salo de Pasolini, qu'on avait sorti en salle en DVD, on a fait un très beau packaging, on a reproduit le dossier de presse de l'époque, donc on a toujours été dans ce rapport là et aujourd'hui j'ai envie de dire encore plus face malgré tout à la baisse du marché du support physique, même si ce marché là est toujours présent mais il n'est pas aussi fort qu'il y a 10 ans par exemple, il y a toujours une vraie envie de la cinéphilie de posséder des films en DVD ou en Blu-ray, mais de plus en plus dans des beaux objets, dans des belles éditions, entre le livre et le DVD. Et c'est vrai que depuis quelques années, on développe ce genre d'édition avec, lorsque le film... on pense qu'on a la matière, le potentiel. C'est aussi de se pencher, c'est pas de proposer juste mettre des photos, quelques textes, mais dans un vrai rapport éditorial. Et donc, on est sur des éditions coffret ultra collector à peu près tous les 3 mois sur un film qu'on va mettre en exergue et pour lequel il y a un livre de 150-200 pages, des photos inédites qu'on recherche auprès de collectionneurs et pas retrouver les mêmes photos que vous voyez sur le net ou ailleurs. Enfin, d'être vraiment dans un rapport vraiment privilégié. Et puis le film, les bonus, les suppléments, des Bogdanovich que vous aviez cité, on sort 2 films en édition prestige limitée qui sont Saint-Jacques et The Last Picture Show, 2 grands films du cinéaste, mais aussi 2 livres, un livre d'entretien avec Jean-Baptiste Auret dans lequel on met un DVD qui est le documentaire récent autour de Bogdanovich. Donc c'est chaque fois de se dire qu'on lit l'écrit avec le visuel et de plus en plus des objets très beaux, très prestigieux qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de posséder, qu'on a envie de garder.
Alors, grâce au numérique, le cinéma patrimoine n'a jamais fait autant parler de lui, n'a jamais été aussi vivant. Est-ce que c'est une évolution, selon vous, positive, nécessaire? Et parfois, on cette critique un peu en creux qui est que les versions aujourd'hui restaurées sont plus belles que belles, c'est-à-dire plus parfaites qu'elles ne devraient l'être, qu'elles étaient les versions originales en salle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que vous, au contraire, vous pensez que le numérique est absolument indispensable et au contraire n'est que bénéfique pour le cinéma de patrimoine?
Il est sûr que le numérique a fait évoluer, pas forcément le marché du patrimoine, mais la perception que pouvait en avoir le public du patrimoine, qui pouvait considérer quand on sortait en copie 35 mm, neuve, restaurée, quelque chose de un peu ancien, poussiéreux, alors qu'aujourd'hui on parle de numérique, de 2K, de 4K, les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose de moderne, tendance, etc. Donc il y a eu, je pense, un rapport différent aussi bien des professionnels, des festivals, on le voit bien, quand on a démarré il y a 20 ans, il n'y avait pas toute cette actualité patrimoine dans les festivals internationaux en France. Il n'y avait pas Cannes Classique, il n'y avait pas Venise Classique, il n'y avait pas le Festival Lumière, il y avait plein de choses qui se passaient. Hein. Il y avait les cinémathèques, il y avait des salles à essai. Le patrimoine n'a pas commencé à exister avec le numérique. On a une histoire forte en France de la cinéphilie qui remonte aux années 40-50. Mais d'un seul coup, il y a eu un autre rapport, je pense, à l'image du patrimoine. Et maintenant, on peut dire que le patrimoine est partout. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Alors en même temps, il est partout, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 10 fois plus de public et d'audience. Parce que le numérique a ses aspects bénéfiques et pas maléfiques, mais en tout cas qui peuvent aussi amener le fait qu'il y a une surabondance de sorties, de restauration. Vous avez énormément de restauration en France, à travers le monde. Heureusement, il y a plein de choses qui sont faites pour préserver, sauvegarder les films, mais tout ne peut pas être forcément diffusé de la même manière. Donc vous avez aussi trop de sorties en salle toutes les semaines, 3 à 4, pour un public qui n'est pas extensible, qui est un peu le même si vous sortez un film japonais, italien, américain, un spectateur qui va déjà voir une réédition en salle, c'est quelqu'un qui est déjà curieux et qui va aller voir ça en plus ou à la place de la grosse nouveauté à réessai ou grand public. Donc Donc à la fois c'est formidable, et en même temps on voit qu'il y a aussi des dangers de mettre tout un peu à un niveau. Des restaurations, on ne sait pas vraiment si ça a été restauré, numérisé. Donc il y a un rôle pédagogique important qui doit être fait des professionnels, des festivals, des distributeurs. Après, pour répondre à votre question sur le numérique, est-ce que c'est trop bien restauré? Est-ce qu'on restaure par rapport à l'œuvre originale, le respect, etc. Ça, c'est, je pense, extrêmement variable et ça dépend surtout des ayants droit, parce que nous, on peut être de temps en temps sur des projets de restauration, mais très souvent, en achetant les droits d'un film, l'ayant droit nous met à disposition le matériel qui existe et qu'il a restauré. Alors, sur la vidéo, le Blu-ray, les DVD Blu-ray, on va souvent upgrader des restaurations. Mais non, je pense que maintenant, on a un niveau de restauration qui est quand même assez extraordinaire, qu'on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire, c'est sûr, au niveau du chimique, et qu'il y a, me semble-t-il, de manière générale, un vrai grand respect de la restauration des films, des très bons laboratoires en France, au Japon, aux États-Unis, qui s'associent avec des collaborateurs du film pour avoir une validation, par exemple, de la photo, du grain, etc. Il y a toujours des choses qui peuvent être moins bien faites, mais de manière générale, je pense qu'il y a un vrai beau travail de restauration à travers le monde, une vraie plus-value. Et surtout, ce qui est formidable, c'est qu'il y a plein de films qui auraient pu être laissés abandonnés, je pense, de cinématographie peu diffusée, d'Asie ou autre, qui d'un seul coup sont restaurés. Et qui peuvent l'être admirablement, et certains films, on les voit, je pense, comme on les a jamais vus par rapport au moment où ils sont sortis. Et aussi entendus. Par exemple, sur les 20 ans de Carlotta, on a organisé pas mal d'animations sur cette semaine-là avec le Pop-Up Store. On a fait venir des laboratoires, et c'est vrai qu'il y a une vraie. Je parle de films d'ailleurs qu'on distribue pas, donc, mais là c'est notre rapport au cinéma. Quand aujourd'hui on voit la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny César, j'ai plutôt envie de dire qu'on l'entend, comme jamais on l'a entendu, grâce à la restauration, ce qu'on ne pouvait jamais faire auparavant, mais grâce au progrès technique de la technologie et du numérique. Et donc on entend, comme on n'a jamais entendu, ces films des années 30-40 du cinéma français. Et ça, c'est extraordinaire.
Vous parliez tout à l'heure du public. Est-ce que ce public évolue et est-ce qu'il peut évoluer à travers des nouveaux supports? On parle maintenant de plus en plus de plateformes VOD qui se créent au fur et à mesure. Est-ce que c'est une manière d'aborder, de conquérir un nouveau public de cinéphiles?
Tout nouveau moyen de diffusion est évidemment important, intéressant et bon pour transmettre et diffuser la cinéphilie. Après, on s'aperçoit que le public cinéphile qui nous suit, qu'on peut aller chercher, qui peut être potentiellement intéressé par un film d'Ozu, de Bogdanovich ou d'autres, on l'a pas encore sur la VOD. C'est-à-dire qu'on l'a sur la salle de cinéma. Les spectateurs savent où aller voir un film de patrimoine dans des salles qui font un travail de patrimoine à l'année, des salles à essai, même si on se contente pas de toucher le public traditionnel. On élargit et notre approche, c'est de toucher le public le plus vaste, entre guillemets, possible. Il existe sur le DVD, le Blu-ray. On sait où acheter un DVD, un Blu-ray, dans des magasins physiques, sur Internet. Les chaînes de télévision font un très bon travail, de Ciné+, à OCS, à Arte. En revanche, même s'il existe des lieux et des très bonnes plateformes, on s'aperçoit que le spectateur, j'ai envie de dire cinéphile, c'est-à-dire qui s'intéresse au cinéma, qui voit des films, ne sait pas où aller voir un film de patrimoine en VOD. Parce que ces lieux-là ne sont pas identifiés. Donc ça va, on sait pas venir avec le temps, mais en tout cas, il n'y a pas d'identification à ce jour, malgré ce qui peut exister. Et c'est vrai qu'exister sur le net est très très difficile aujourd'hui. On s'aperçoit que des sites qui existent de VOD, SVOD ou tout ce qu'on veut, existent aussi avec beaucoup de moyens de promotion, de communication, et c'est compliqué d'exister uniquement via les réseaux sociaux ou un peu de com. Et tout, c'est pas du jour au lendemain. Donc je pense qu'il y a, oui, il y a, pour l'instant, on le retrouve pas là. Il y aura sûrement des développements, mais le public vient au cinéma, achète des DVD, le voit à la télé, vient dans les festivals, et potentiellement, il est présent.
Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 20 ans à venir de Carlotta? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter mieux?
Se retrouver là dans 20 ans et discuter de nouveau cinéma et d'être, de parler non seulement de tout ce qu'on aura fait de nouveau en 20 ans et puis de l'actualité permanente du cinéma et de nouveaux, nouveaux hommages, rétrospectifs, découvertes, redécouvertes. Parce que c'est vrai ce que je dis toujours, et on pose des fois, oui, mais t'as pas fait un peu le tour là de sortie de film en 20 ans, etc. On n'a jamais fait le tour parce qu'on découvre constamment. C'est-à-dire que c'est une découverte constante. On est sur 120 ans, pas loin d'histoire du cinéma. Donc on est sur une découverte constante du cinéma. Et il y a tellement de cinématographies, de cinéastes qu'on ne connaît pas, ou de films, de premiers films de grands cinéastes. Donc c'est permanent et ce travail-là est plus vivant que jamais. Autant, voire peut-être plus. Ça, je le dis parce que je suis vraiment complètement dans le patrimoine et dans mon ADN, peut-être plus que le cinéma d'aujourd'hui et d'actualité.
Eh bien, merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.